Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et le moment est venu pour Franck Ferrand d'inaugurer cette semaine spéciale consacrée aux énigmes royales. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Pendant toute cette semaine donc, nous allons tenter d'élucider certains des mystères les plus captivants de l'histoire. Nous allons enquêter sur 5 disparitions pour le moins mystérieuses et qui ont pour cadre l'Escurial, Meyerling, la Tour de Londres et celle du Temple. Pour ouvrir le feu si j'ose dire, je voudrais revenir aujourd'hui sur les circonstances pour le moins étranges de la mort du roi Henri IV. Dans la mémoire collective, l'assassinat d'Henri IV en 1610 a été l'acte isolé d'un déséquilibré Ravaillac. Mais depuis longtemps, certains ont parlé de complot politique. Et il est vrai qu'Henri IV ne manquait pas d'ennemis et qu'il se savait menacé. La thèse du complot politique a été reprise au XVIIIe, surtout au XIXe siècle. Et puis, il y a un demi-siècle, elle a été précisée par le travail d'un auteur que j'ai toujours plaisir à citer, Philippe Erlanger. Celui qui le plus récemment a rouvert ce dossier brûlant en apportant des éléments décisifs, c'est Jean-Christian Petit-Fils. Eh bien, je suis heureux que Jean-Christian ait accepté de venir en ce début d'après-midi nous livrer le fruit de ses recherches.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question de Victoire qui veut en savoir plus sur l'origine des appellations Monsieur, Madame et Mademoiselle.
Ah ah, Madame, Mademoiselle, Monsieur, bienvenue dans notre semaine spéciale Énigme Royale.
Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Paris, le vendredi 14 mai 1610, il est un petit peu plus de 4 heures de l'après-midi, le temps est radieux. Le roi Henri IV a quitté le Louvre, il est parti rendre visite du côté de l'Arsenal, je pourrais même dire au palais de l'Arsenal à l'époque, il est parti rendre visite à son ami Sully qui est cloué au lit par une mauvaise grippe. Paris est en fête. Marie de Médicis, l'épouse du roi, vient d'être sacrée, là il y a quelques heures, reine de France. Et Henri IV, dans son carrosse, a fait relever les tentures de cuir car il veut voir un certain nombre des décors et des ornements qui ont été installés pour l'entrée solennelle de la reine dans la capitale, entrée solennelle qui est prévue pour le surlendemain. À ses côtés, de grands personnages de la cour, dont le duc d'Épernon. Le duc d'Épernon a longtemps été l'un des favoris d'Henri III. Il connaît depuis longtemps Henri IV, bien entendu, mais on peut dire que le roi s'est toujours plus ou moins méfié de lui. Le carrosse avance tant bien que mal dans Paris, avec une escorte assez légère. Il passe bientôt par la rue de la Ferronnerie, une rue souvent encombrée de marchands ambulants. Eh bien justement, il y a là, en travers de la chaussée, une charrette qui gêne le passage. Elle crée ce que nous appellerions, nous, un embouteillage. Soudain, surgit de nulle part un homme en tenue verte. Il a dans la main un couteau. Et je passe ici la parole à Jean-Christian Petit-Fils qui nous dit, dans l'assassinat d'Henri IV, je cite, « Il sauta sur l'un des rayons de la roue, appuyant son autre pied sur un montoir, se pencha à l'intérieur de la voiture et, de la main gauche, plongea dans le corps du roi, sa lame effilée. Un premier coup atteignit Henri, entre la deuxième et la troisième côte, près de l'aisselle. Je suis blessé, cria le roi. Un second, plus violent, pénétra entre la cinquième et la sixième côte, transperça le poumon gauche, trancha la veine cave et atteignit l'aorte. » Là, vous avez bien compris que ça devient très embêtant. « ce n'est rien », répéta Henri, avant qu'un flot de sang ne lui envahisse la bouche. L'attentat n'a duré que quelques secondes. L'assassin, du reste, ne cherche pas vraiment à fuir. Il a l'air là comme hébété. Il est, bien sûr, appréhendé très vite. On l'arrache à la foule qui était déjà prête à le lyncher. Mais le duc d'Épernon ordonne qu'on l'emmène, on ne tardera pas à prendre l'identité de cet assassin, François Ravaillac. Le duc d'Épernon envoie tout de suite le baron de Courtomer prévenir Sully de la terrible nouvelle. Et là se passe une scène qui est assez étrange et sur laquelle il faudra que nous revenions, bien entendu. Au moment où le baron, ou le messager si vous voulez, s'en va, il croise un groupe de cavaliers, les chevaux sont là qui lui font face et qui piétinent sur place et on crie à ce moment-là « tue, tue, il faut qu'il meure ». Et le baron de Courtomer est convaincu que ça veut dire « il faut que Ravaillac, il faut que l'assassin meure ». Est-ce que la question n'était pas de tuer le roi lui-même, vous avouerez que la question se pose. Alors, le duc d'Épernon a donc fait conduire Ravaillac dans un hôtel particulier, l'hôtel de Ré. Henri IV a été rapidement ramené au Louvre, mais avant même d'arriver aux grandes portes, il rend son dernier soupir dans le carrosse. Quand je dis le carrosse, vous imaginez ce que c'est qu'un carrosse du début du XVIIe siècle. Hein. Ça ressemble plus au char à bœufs qu'à autre chose. On est loin des très beaux carrosses de l'époque de Louis XV, bien entendu. La reine Marie de Médicis a été avertie. Elle arrive en catastrophe. Elle se précipite à la rencontre de son mari qui est déjà mort. Elle s'effondre sur le corps. C'est elle qui maintenant va assurer la régence du royaume. Dans quelles conditions? Là aussi, il faudra que nous y revenions. Car pour la première fois dans l'histoire de France, on va voir un certain nombre d'ambassadeurs de cours étrangères siéger au Conseil. Pendant 2 jours, Ravaillac est donc à l'hôtel de Ré, gardé par un seul homme. Il a l'air plutôt fier de son crime. Il reçoit plusieurs visites, notamment celle de Coton, le confesseur du roi. Et au bout de 3 jours, il est enfin, mais je dis bien au bout de 3 jours seulement, il est transféré à la conciergerie. C'est là que va commencer son procès. Ravaillac explique qu'il a 32 ans, qu'il a grandi dans une modeste famille d'Angoulême, famille tout à fait catholique. Ça aussi, c'est très important de voir d'où il vient, quelle est l'origine de sa haine des Huguenots en général et de Henri IV en particulier. Il est fragile psychologiquement, ce bonhomme, c'est certain. Il raconte qu'il a eu des apparitions, une hallucination religieuse, etc. Mais ça n'est pas à proprement parler ce qu'on pourrait appeler un illuminé. C'est un homme qui a une certaine instruction. Il a enseigné le catéchisme, il est devenu coursier judiciaire, il a servi divers tribunaux ces derniers mois. Il a voulu par 2 fois parler au roi pour lui demander de faire la guerre aux Huguenots. Il a été refoulé à l'entrée du Louvre, là encore dans des circonstances qui laissent pantois. Lorsqu'on voit jusqu'où la menace a pu se manifester, on est étonné de voir qu'autour du roi, personne ne se soit davantage inquiété. Il faut dire que la période est très troublée. Henri IV divise profondément le royaume. Vous savez qu'il a changé 6 fois de confession. Il est mal accepté par les catholiques, ça c'est certain. Pour eux, il est un faux converti. Mais aux yeux d'un certain nombre de protestants, il passe aussi plus ou moins pour un traître, Henri IV. Apparemment, c'est lorsque Ravaillac a appris que le roi voulait s'en aller porter la guerre dans les Flandres, la guerre contre les puissances catholiques, qu'il a décidé de le tuer. Ravaillac, pour le moment, passe encore, aux yeux de tous, pour une sorte de fou de Dieu qui a agi totalement seul dans son coin et qui voulait simplement se venger et venger la France du tyran.
Extrait de Gloria Lowe sur Europe 1, composé par Eustache Ducouroy. On parle toute cette semaine des énigmes royales. Aujourd'hui, on s'intéresse pour la première de cette série à l'assassinat d'Henri IV. Alors, on vient de le découvrir, c'est Ravaillac, il a 32 ans, c'est lui qui a commis le crime. Et pour l'instant, c'est juste un fou de Dieu. Aux yeux de tout le monde, Franck.
Oui, ça va bientôt changer. J'allais dire je vous rassure ou je vous inquiète comme vous voudrez. Alors oui, pardon, j'attendais un petit écran publicitaire.
Non, il n'y en a pas,
pardon,
aujourd'hui.
Pas, mais tant mieux. Alors, pendant 10 jours, Ravaillac est longuement questionné. Quand je dis questionné, c'est-à-dire qu'il est torturé selon la procédure alors en vigueur. L'obsession, qui est une obsession légitime des juges, c'est de déterminer évidemment si l'assassin a eu des complices. Ravaillac le dit, l'affirme, j'ai agi seul. Il n'a été guidé que par une seule main, celle de Dieu, chargée de se venger du tyran Henri IV, l'ennemi des catholiques. En effet, quelques semaines avant de mourir, il faut quand même que je vous explique ça. Le roi avait décidé de se lancer dans une guerre, une campagne très importante contre le bloc catholique, hein, contre les puissances catholiques d'Europe, essentiellement contre l'Espagne et l'Autriche, mais il y a aussi des petits états allemands avec eux. Il y a les dépendances flamandes de l'Espagne, bien entendu, les Pays-Bas espagnols, qui grosso modo couvrent la Belgique actuelle. Henri IV voulait affaiblir les catholiques pour renforcer le bloc protestant qui, lui, à l'époque, est dirigé par la Grande-Bretagne. Il avait fait le choix de soutenir les protestants dans la guerre de succession de deux petits territoires, le duché de Clèves et le duché de Juliers. Henri a amassé quelque 32 000 hommes sur les frontières au nord-est du royaume. On peut dire que la guerre est imminente. Or, et quand vous saurez ça, évidemment, les choses deviennent un peu plus ambiguës. La vérité, c'est que le roi vieillissant a une motivation très particulière dans cette nouvelle campagne. Henri IV veut aller dans les Flandres, retrouver et je dirais même récupérer sa nouvelle conquête, mais je parle là d'une conquête féminine. Il s'agit de la toute jeune et très jolie Charlotte de Montmorency, qu'il avait rencontrée, dont il était tombé amoureux. Mais oui, après tout, on est bien en présence du ver galant. Et il se trouve que Henri IV a essayé dans un premier temps de marier Charlotte à l'un de ses cousins, le prince de Condé, qui était réputé ne pas aimer les dames. Seulement, Condé s'est pris au jeu, si je puis dire, et contrairement aux souhaits d'Henri IV, il n'a pas voulu laisser le roi faire main basse sur son épouse. Il l'a emmenée aux Pays-Bas espagnols, chez l'ennemi catholique. Voyez donc que la situation géostratégique, si je puis dire, et le contexte extrêmement tendu de la mort d'Henri IV. C'est vrai qu'on vient de couronner la reine qui s'apprête à faire sa joyeuse entrée dans Paris, mais simultanément, c'est vrai aussi qu'on a massé des troupes considérables sur les frontières flamandes pour aller porter la guerre dans les Flandres contre les puissances catholiques. Donc tout ça ravive bien entendu des tensions formidables. Alors, on continue le procès de Ravaillac, bien entendu, au bout de 10 jours de procès, le 27 mai 1610, il est condamné à mort, jusque-là ça ne vous surprendra pas, pour les juges, aucun doute possible, Ravaillac n'est qu'un fanatique et un fanatique isolé. Le même jour, il va donc subir en public son affreux supplice qu'il était cartelé vif en place de grève. C'est-à-dire qu'on attache chacun des quatre membres à des cordes qui sont tirées par des chevaux. C'est un supplice terrible qui dure plus de 2 heures. Il y en a même un cheval qui montre des signes de fatigue. La foule, qui est immense, n'a aucune pitié pour l'assassin. On ne va même pas chanter le Salve Regina qui d'habitude accompagne les grands supplices pour essayer de demander à Dieu de pardonner les fautes du coupable. Et lorsque Ravaillac, le pauvre, finit par mourir, je dis le pauvre, en tout cas le malheureux, devrais-je dire pour être plus exact, la foule, une partie de la foule en tout cas, va s'emparer des morceaux sanguinolents, etc., du régicide. On brûle ce qui reste, enfin bon, c'est un supplice terrible. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Seulement, assez vite, un certain nombre de personnes vont mettre en cause la version officielle de ce loup solitaire qui se venge du roi protestant coupable d'aller faire la guerre aux catholiques. Dès 1610, et puis alors par la suite, au 18e, au 19e siècle, des historiens, je pense bien sûr au grand Michelet, vont accuser un homme en particulier, le duc d'Épernon, qui était présent aux côtés d'Henri IV, dans la voiture, d'avoir été en quelque sorte à l'instigation de cette mort. Et c'est en 1957 que Philippe Erlanger va rouvrir le dossier de l'assassinat d'Henri IV et se pencher sur des révélations qui avaient été faites peu de temps après la mort du roi par une certaine Jacqueline d'Escommans. Un personnage très intéressant, cette Jacqueline d'Escommans. C'est une femme de mœurs légères. Elle a été plus ou moins au service d'Henriette d'Entrague. On verra jusqu'où tout à l'heure avec Jean-Christian Petit-Fils. Henriette d'Entrague, personnalité très importante, hein. C'est une des anciennes maîtresses d'Henri IV à qui le roi avait promis le mariage avant finalement, un peu au dernier moment, d'épouser Marie de Médicis. Henriette d'Entrague s'est toujours sentie trahie. Elle n'a pas accepté cette union du roi et de Marie de Médicis, qu'elle traitait de grosse banquière. Et elle était vent debout, si je puis dire, contre la cour. En 1605, elle a même pris la tête d'un complot pour éliminer le roi, déjà à l'époque. Complot qui avait échoué. Or, quelques mois avant l'assassinat d'Henri IV, alors qu'elle priait dans une église, Jacqueline d'Escommans affirme qu'elle aurait été le témoin d'une conversation à voix basse entre Henriette d'Entrague et le duc d'Épernon. Le voilà, ce duc d'Épernon, Jean-Louis de Nogaret, duc d'Épernon, petit-fils de notaire, du reste, qui avait connu une très grande fortune, qui avait su gagner plus que la confiance d'Henri III, qui lui avait accordé toutes sortes de privilèges, dont celui de colonel général de l'infanterie française. Vous imaginez le poste essentiel. Henri IV a retiré au duc d'Épernon tous ses gouvernements successifs. Il lui a retiré toute responsabilité militaire dans la future guerre qui se préparait contre les Habsbourg. Bref, il en a fait quasiment un ennemi naturel. D'Épernon s'est rapproché de la reine Marie de Médicis, qui sans doute aurait besoin de ses services dans le cas où le roi viendrait à mourir. Il faudra peut-être qu'on vienne sur cet aspect d'ailleurs tout à l'heure. C'est que pendant les semaines qui ont précédé la mort d'Henri IV, tout le monde ne parlait que de cela. Comme si c'était déjà un fait avéré bien avant que le coup ne soit porté. Ça, c'est assez extraordinaire. Henri IV se méfiait beaucoup du duc d'Épernon. Dans son testament, il précisait que s'il devait mourir, un conseil de régence assurerait évidemment la période, le pouvoir. Conseil dans lequel le duc d'Épernon ne figurerait pas. Alors, Jacqueline d'Escommand aurait donc entendu le duc d'Épernon et Henriette d'Entragues s'entretenir de l'éventuel complot contre le roi. Elle aurait couru immédiatement au Louvre pour avertir le roi. Elle n'a trouvé personne. Elle se serait confiée à un prêtre. On y viendra tout à l'heure. Et puis, quelques jours plus tard, elle est emprisonnée à la conciergerie sous prétexte d'abandon d'enfant. Elle sera libérée 8 mois seulement après l'assassinat d'Henri IV. Et c'est à sa sortie de prison qu'elle décide de tout aller avouer, d'aller raconter son histoire à une personnalité très importante, puisque c'est l'ancienne épouse du roi, la première femme d'Henri IV, la célèbre Marguerite de Valois, mieux connue sous le nom de Reine Margot.
Aujourd'hui, c'est le début de la grande semaine consacrée aux énigmes royales. On revient sur la mort d'Henri IV. Qui a armé Ravaillac? C'est la question à laquelle Franck Ferrand et son invité vont répondre aujourd'hui. Vous pouvez réagir à cette émission sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Vous pouvez également nous laisser des messages sur le Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et pour commencer cette série d'énigmes royales qui va durer toute la semaine sur Europe 1, vous avez décidé, Franck Ferrand, aujourd'hui de revenir sur l'assassinat d'Henri IV. Ravaillac a été tué, condamné effectivement, mais une autre personne vient d'entrer dans le jeu. Elle s'appelait Jacqueline d'Escommand.
Et oui, cette Jacqueline d'Escommand est donc allée tout raconter à la reine Margot. C'est ensuite la reine elle-même, la reine Marie de Médicis, qui va convoquer Jacqueline pour qu'elle réitère ses accusations. Et là, derrière une tenture, se sont cachés le duc d'Épernon et le président du Parlement, le président Harlay, qui vont donc entendre tout ce qui est dit. Le duc d'Épernon n'y tient plus, il sort de sa cachette, si je puis dire, il crie à la calomnie. Seulement, Jacqueline ne démord pas de ses accusations. Elle affirme qu'Henriette d'Entragues et le duc préparaient un complot depuis 1608, année où les relations s'étaient effectivement tendues entre Henri IV et sa maîtresse. Et Jacqueline affirme avoir rencontré Ravaillac à Paris chez Charlotte du Tillet. Charlotte du Tillet, c'est l'une des maîtresses du duc d'Épernon. Il faut vous dire qu'elle ne donne pas une description physique très probante, puisque la description qu'elle donne du Ravaillac qu'elle a rencontré chez Madame du Tillet ne ressemble pas du tout au grand rouquin qu'on connaît et qui venait d'Angoulême. Si Jacqueline d'Escommand avait tout inventé, voilà la question qu'on peut se poser. Eh bien, cette question, Philippe Erlanger se l'est posée, mais en apportant une réponse assez différente de celle que ses devanciers avaient jusqu'alors donnée. Lui s'est dit qu'elle n'avait peut-être pas tort. Ce qui est sûr, c'est que pour s'être attaquée à l'homme le plus puissant du royaume, au duc d'Épernon, Jacqueline d'Escommand a été arrêtée. Le procès pour elle était perdu d'avance, et d'autant que d'Épernon, entre-temps, s'était arrangé pour faire mettre à la retraite le président de Harlay, qui a été remplacé par un homme tout à fait dévoué au nouveau gouvernement. Jacqueline d'Escommand est condamnée pour diffamation. Elle va passer le restant de ses jours en prison. Elle va rédiger un manifeste sur la mort d'Henri IV en 1616 et elle dit qu'elle n'est pas folle, que tous ses propos sont vrais, etc. Donc, En 1957, Philippe Erlanger raconte ce que beaucoup avant lui avaient écrit, mais il apporte un certain nombre d'éléments supplémentaires. D'abord, il s'est plongé dans les archives de l'époque, et plus précisément dans les dépêches du nonce Ubaldini, qui était ambassadeur du pape à la cour d'Henri IV, des rapports rédigés entre 1605 et 1611, et qui se trouvent aux archives du Vatican, les fameuses archives secrètes du Vatican, qui n'ont de secret que le nom. Dans son ouvrage « L'étrange mort d'Henri IV », Philippe Erlanger fait référence à des lettres adressées à la reine Marie de Médicis qui l'avertissait d'un assassinat contre Henri IV. Lettre écrite, en tout cas pour la dernière, le 13 mai 1610. 13 mai 1610, c'est la veille du régicide. Et Erlanger va plus loin. Il est allé fouiller dans les archives de l'ambassadeur de Venise, Antonio Foscarini, et il a exhumé une dépêche datée du 9 février 1611, dépêche qui affirme que le duc d'Épernon et Henriette d'Entragues auraient menti et que Jacqueline d'Escommand disait vrai. Attention, c'est là le point de vue du diplomate, hein, bien entendu. Il n'y a pas de preuve historique. Il y a simplement l'avis d'un grand témoin de l'époque. Alors, pourquoi, si le duc d'Épernon était à ce point mouillé dans cette affaire, pourquoi ne pas avoir abandonné Ravaillac à la foule qui ne demandait pas mieux que de l'écharper? Ça lui aurait peut-être permis de n'éveiller aucun soupçon. On a posé un certain nombre de questions, évidemment, sur l'implication du duc d'Épernon. Et celui qui s'est le plus récemment penché sur la question, c'est Jean-Christian Petit-Fils, dont les recherches ont mis au jour des documents qui accréditent une toute autre thèse, celle d'un complot ourdi depuis Bruxelles. Pour le compte de qui? Pour le compte de l'archiduc Albert de Habsbourg. Albert de Habsbourg était archiduc souverain des Pays-Bas espagnols. C'était l'ennemi d'Henri IV, hein, puisque ce dernier s'apprêtait à lui déclarer la guerre. C'était une question d'heure, quasiment. Il savait très bien, l'archiduc Albert, que l'intention d'Henri IV était de venir récupérer Charlotte de Montmorency à Bruxelles pour l'arracher au bras de son mari, le prince de Condé. Pour cette sotte équipée du prince de Condé, écrit Jean-Christian Petit-Fils, Albert risquait de voir son pays envahi, ravagé peut-être. L'attitude menaçante d'Henri IV le révulsait. Quelle profonde injustice! Quelle odieuse tyrannie! N'était-il pas, dans son bon droit, d'user de la seule arme susceptible d'arrêter la fatale défaite de ses troupes et de modifier la politique française? C'était un acte de légitime défense, un devoir envers ses peuples fatigués de la guerre. Alors on possède une lettre en ce sens, c'est celle de l'ambassadeur de Genève à Paris, Jacob Enjoran, on va y venir dans un instant avec Jean-Christian Petit-Fils bien entendu. Cette lettre date du 23 mai 1610, c'est-à-dire 9 jours seulement après la mort d'Henri IV, et elle donne toutes sortes de détails. Un certain individu avait promis à l'archiduc qu'il tuerait le roi en sortant du Louvre, et la lettre donnait même le nom d'un des organisateurs du complot, le comte de Salnov, un colonel franc-comtois, proche de la cour des Pays-Bas catholiques, et il donnait également le nom du chef du commando Lamotte qui était arrivé à Paris le 23 avril 1610, c'est-à-dire 3 semaines avant le régicide. Jean-Christian Petit-Fils, par ailleurs, nous donne des détails sur les dépenses en mission d'espionnage, en mission secrète à destination de la France. Des missions qui n'avaient jamais été aussi importantes qu'en 1610. Cette même année, dans les archives de tous les pays relevant de la maison d'Autriche ou proches de la maison d'Autriche, on trouve des correspondances qui précèdent de quelques semaines la mort d'Henri IV, et ces correspondances font défaut d'un seul coup. C'est-à-dire que on a des trous dans les archives. Tout ça, bien entendu, pose question. Enfin, en ce qui concerne le mystérieux, comment peut-on l'appeler, le commando à cheval dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été donc aperçu par un des gardes du roi quelques minutes après l'assassinat, eh bien on se dit qu'il pourrait bien être la preuve qu'un groupe était là destiné à faire taire Ravaillac. Tuer, certes, mais ce n'était peut-être pas Henri IV qu'il fallait tuer, c'était bien Ravaillac, et c'était pas pour venger la mort du roi, c'était pour empêcher le coupable d'en dire davantage. Une chose est certaine, Ravaillac est mort sans jamais dénoncer personne. Bonjour Jean-Christian Petit-Fils.
Bonjour Franck Ferrand.
C'est passionnant de vous avoir avec nous cet après-midi pour essayer de tirer les fils de cet écheveau compliqué de la mort d'Henri IV.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Par mois pendant 10 mois.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Henri IV est mort le 14 mai 1610. On en parle aujourd'hui jusqu'à 15h sur Europe 1. Alors, est-ce que Ravaillac a été téléguidé? Est-ce qu'on lui a fourni l'arme? Vous en parlez avec Jean-Christophe Petit-Fils. Jean-Christian. Oui. Jean-Christian Petit-Fils, écrivain et historien, auteur de L'Assassinat d'Henri IV, paru chez Perrin et réédité en format poche et Tempus en 2012.
Et à propos de réédition, Jean-Christian Petit-Fils, j'ai entre les mains la somptueuse réédition de votre Louis XVI, qui a fait date et qui ressort donc dans un très bel écrin chez Perrin. Alors, nous parlons aujourd'hui non pas de Louis XVI, mais de son arrière-grand-père Henri IV, qui meurt donc en 1610. Et peut-être qu'il faut revenir un instant, notamment pour ceux qui nous rejoindraient en route, revenir sur les circonstances de cette mort. C'est-à-dire qu'au moment où Henri IV meurt, on est au pire d'une crise politique qui est peut-être l'une des plus fortes d'un règne déjà bien troublé, puisqu'on a massé aux frontières de la Flandre une importante armée.
Ah oui, alors Henri IV part en guerre et il est déterminé cette fois, parce qu'il y a eu des moments d'hésitation, il est déterminé à porter secours à la citadelle de Juliers qui est assiégée par les troupes de l'empereur, Rodolphe II. Il prend le parti des princes protestants dans cette affaire, donc il y a une tension qui résulte en France.
Roi catholique de France, ancien protestant lui-même et qui prend parti des protestants.
Qui n'avait pas été accepté par une partie de l'opinion catholique, celle des anciens ligueurs,
ses anciens ennemis, en fait.
Très, très profondément hostiles aux protestants, aux huguenots. Donc il joue un jeu dangereux. À cela s'ajoute cette affaire amoureuse extravagante, parce qu'il est tombé amoureux d'une petite
jeune fille de 15 ans. Oui, il faut dire un mot de ça, c'est incroyable.
Il en avait 55.
55 ans en 1610, on imagine un peu l'état du monsieur.
Il est tombé fou amoureux, comme Henri IV
d'une toute petite gamine,
parce qu'il a multiplié les maîtresses. Là, c'était quelque chose de beaucoup plus important, peut-être, que l'amour pour Gabrielle d'Estrées.
Il est tombé fou passionné de ce tendre.
Elle était extrêmement distinguée. Elle était la fille du connétable de Montmorency. Et il a même songé, à un moment donné, semble-t-il, à répudier Marie de Médicis et à se marier avec elle. Et la petite, elle, a cru à tout cela. Elle a été enthousiasmé par cet amour. Il y a une correspondance qui a été découverte il y a quelques années par Charles Samaran qui montre combien cette jeune princesse de Condé, puisqu'elle a été mariée au prince de Condé, le père du grand Condé, combien cette jeune princesse était amoureuse. Alors on est au début de la préciosité, on voit mon tout, mon chevalier, elle avait vraiment envie de devenir reine. Oui. Donc il y avait un enjeu politique intérieur et des enjeux politiques extérieure.
Elle est devenue princesse de Condé, son mari l'a entraînée avec lui à Bruxelles et le roi a bien l'intention de la récupérer en gros.
Voilà,
c'est ça.
Ce qu'on appelait l'enlèvement innocent. il enlève sa femme pour la soustraire
à la mauvaise influence du vieux monsieur.
De ce vieux faune. Voilà. Voilà.
Bon, alors ça, c'est le contexte entre guillemets de cour et diplomatique. Il y a aussi à l'intérieur même du royaume beaucoup de troubles et dans le conseil du roi de fortes tensions. C'est-à-dire que on peut pas dire qu'il règne une grande paix à la cour de France. Et notamment le roi est en mauvais terme avec sa propre épouse, avec Marie de Médicis.
Oui, il ne s'entend pas avec Marie. Au sein du conseil, il y a des avis divergents. Il y a des protestants. Il y a Sully qui est là, qui occupe une charge très importante de surintendant. Et le roi a hésité longtemps à se lancer dans cette guerre européenne. Et finalement, c'est le refus de Bruxelles, des archiducs, comme on les appelle, c'est-à-dire Claire Isabelle Eugénie, la fille de Philippe II, pour qui avait été constitué cet apanage. Un apanage qui aussi englobe la Franche-Comté.
C'est-à-dire que les Pays-Bas espagnols descendent très très loin dans le royaume de France.
Ça occupe une partie de l'Artois aussi, la Flandre maritime. Alors il y a que l'évêché de Liège qui était indépendant, donc en gros c'est la Belgique, sauf l'évêché de Liège. Et puis aussi, il y avait la Franche-Comté. Tout cela constituait une principauté autonome au sein de la monarchie espagnole. Et qui avait d'ailleurs sa propre logique, sa propre politique. De la même manière, c'était très décentralisé dans l'Empire espagnol. Il y avait aussi le Milanais qui était assez indépendant.
Je vous vois venir, Jean-Christian Petit-Fils. Vous êtes en train d'installer le décor pour nous expliquer le complot, le véritable complot qui a eu lieu contre Henri IV. Mais avant cela, je vous propose quand même de jeter un œil à l'autre complot, celui sur lequel s'était attardé Michelet, puis Philippe Erlanger, c'est-à-dire l'affaire de Jacqueline d'Escommans. Qui est-elle, cette Jacqueline d'Escommans? J'ai dit tout à l'heure, une femme de mœurs légères.
Alors, très légère, parce que en effet, elle s'est adonnée à la prostituée, à la prostitution. Elle était mariée avec un soldat qui s'appelait d'Escommans. Elle-même s'appelait Levoyer. Et elle a abandonné son enfant sur un pont de Paris.
Ce qui va lui valoir la prison.
Elle est emprisonnée. Elle est condamnée à mort. Elle fait appel. Mais à ce moment-là, elle ne dit rien de ce qu'elle sait. Ou ce que, soi-disant, elle sait.
Savoir, oui.
Elle est condamnée à mort. Et c'est seulement après sa condamnation à être internée chez les filles repenties. Mais son mari ayant refusé de payer la pension, finalement, il est libéré. Donc c'est extraordinaire, condamnation à mort et puis après libération.
La justice
elle est libérée,
de l'époque
qu'elle va
pleine
aller
de
trouver
mystère.
En 1611 Marguerite de Valois.
Donc
c'est
la,
déjà
la
moi, quand j'ai écrit ma grande biographie sur
Louis XIII, oui.
J'avais évidemment porté une grande attention à l'assassinat d'Henri IV, parce qu'il faut dire en parenthèse que l'assassinat d'Henri IV c'est un événement majeur de notre histoire moderne. Ça va renforcer l'absolutisme, ça va donc conduire au règne
bien
de Louis XIV, renforcer le culte du secret. La peur de la mort, Louis XIV dira lui-même parfois, je n'en réchapperai pas. Il a peur aussi d'être assassiné. Ça va renforcer le culte du droit divin. Est-ce qu'il y aurait eu Bossuet s'il n'y avait pas eu Rabaillac? On peut se poser la question, on va, au moins dans cette expression.
Et puis ça va bouleverser l'équilibre des puissances en Europe. Hein,
voilà. Et puis ça va lancer aussi la légende henricienne, puisque
voilà,
ça va atténuer
bon roi
aussi
Henri,
voilà. Toutes les aspérités de ce roi. Mais donc, en effet, moi j'avais été très un peu agacé par cette histoire de la d'Escommans. J'avais lu le livre de Philippe Erlanger, j'avais été séduit par
le livre
par
est remarquable
thèse,
comme toujours, bien sûr.
Très très brillant, il est paru en 1957 et dans les années 60 je l'avais lu et puis j'ai découvert que en 2003 un historien qui s'appelle Robert Muchamblède avait trouvé dans les registres du Parlement le dernier procès de la d'Escommans
qui n'a pas été brûlé contrairement à ce qu'on disait.
Exactement.
Hein.
On avait dit, est-ce que Philippe Erlanger disait, on a fait incendier le palais de justice en 1618 justement pour brûler ses archives? Pas du tout. Eh bien, ça a échappé. Et c'est là qu'on voit quand même que cette femme, c'est une mythomane. Les domestiques très proches ne la connaissent pas. Il y a surtout un certain Sauvage qui est un valet de marquise de Verneuil, Gaudin qui est un officier très proche
la
aussi
marquise
de
Verneuil,
cour,
c'est Henriette d'Entrague,
Henriette
d'Entrague dont je parlais tout à l'heure.
Exactement.
Oui.
Et surtout le témoignage, pour moi est essentiel, de Mathurin Renaudin qui est l'aumônier d'Henriette d'Entrague. Et l'aumônier d'Henriette d'Entrague dit: ah, la d'Escommans, oui, en effet, on la voyait de temps en temps venir demander l'aumône. Alors que dans sa déposition, elle se présente comme la
servante.
Confidente.
Oui,
comme...
voilà.
Alors sans doute a-t-elle entendu, moi je veux bien l'admettre, une confession en l'année 1606, au moment de Noël de l'année 1606, où il y avait un complot qui se nouait. Car tous ces gens ont conspiré, le duc d'Épernon a conspiré contre Henri IV, mais il s'est réconcilié quand même en 1595, il était pro-espagnol, il a changé de camp. Il y a eu aussi l'affaire Biron, le maréchal de Biron a été condamné à mort, et tous ces gens se sont tenus quoi, et y compris donc d'Épernon. Tous les, faut dire que tous les biographes de duc d'Épernon considèrent que les accusations de la d'Escommans sont à rejeter. Et là, ce manuscrit, ce texte de procès, vraiment nous permet d'écarter cette hypothèse. Cette femme s'est trompée partout. Elle a insisté beaucoup sur un billet que Henriette d'Entrague lui aurait envoyé, lui recommandant Ravaillac. On lui a demandé où est ce billet. Ah, eh bien, elle est chez une dame, vous la trouverez à Paris. On a fait les recherches et on s'est aperçu que cette femme n'avait jamais mis les pieds à Paris depuis 7 ou 8 ans. Donc, c'est déjà une erreur.
Oui, ça fait quand même beaucoup de doutes.
Elle raconte aussi qu'elle a vu Ravaillac avec un poignard qui devait assassiner le roi, et le poignard s'est fiché dans les lattes du parquet. On a fait des recherches sur la chambre de la demoiselle du Tillet. On s'aperçoit qu'il n'y avait jamais eu de parquet, il y avait toujours eu de la tovette, du dallage. Donc tout cela montre que c'est une mythomane.
Bon, alors, si ce n'est pas le duc d'Épernon, si les accusations de Jacqueline d'Escommant s'effondrent, qui est-ce? Parce que ce que vous nous dites, c'est que néanmoins, il y a bien eu, dans l'ombre de Ravaillac, un certain nombre d'esprits mal intentionnés.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Alors, Henri IV a-t-il été victime d'un acte isolé? A priori non. Victime d'un complot politique? Peut-être. On en parle cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et avec votre invité. Vous recevez Jean-Christian Petit-Fils, écrivain et historien, auteur de L'assassinat d'Henri IV, paru chez Perrin.
Alors, vous avez, Jean-Christian Petit-Fils, mis au jour un certain nombre de documents passionnants et qui portent, qui jettent sur cette affaire une lumière à la fois crue et nouvelle. Le premier de ces documents, celui qui est peut-être le plus spectaculaire, c'est une lettre de Jacob Enjolras, qui était l'ambassadeur de Genève à Paris. La lettre en question succède de très peu à l'attentat, puisqu'on est le 23 mai 1610.
Oui, tout à fait. Avant même d'avoir mis à jour cette lettre, j'avais été frappé par un rapport d'un certain Villiers Hautement, qui a commencé à travailler à partir de l'année 1611-1612, sur ce qu'on pourrait appeler la mort annoncée. La mort du roi est annoncée avant même que Henri IV ait été exécuté.
Hein.
Et cela à Bruxelles, à Anvers, à Dinan, à Bois-le-Duc, dans les pays flamands, à Cologne également, à Lille, qui faisait partie aussi des Pays-Bas espagnols.
Soulignons bien, hein, une fois encore, toutes ces annonces sont faites avant la mort
avant
d'Henri IV.
Avant la mort d'Henri IV, on annonce
déjà sa mort.
Le roi est mort ou le roi va mourir.
Incroyable.
On annonce aussi qu'un certain individu est parti pour Paris pour le bien de la chrétienté, qu'il a reçu 2000 livres de récompense. Tout cela montre, et l'ambassadeur des Pays-Bas espagnols, l'ambassadeur des Provinces-Unies, donc de la Hollande actuelle, à Paris, a dit à Marie de Médicis qu'il y avait des centaines de témoignages en ce sens. Pourquoi? Parce que, en réalité, les tueurs, semble-t-il, attendaient le couronnement de Marie Médicis.
Et voilà.
Sinon,
il fallait qu'elle ait une légitimité suffisante.
Il fallait lui donner une légitimité et il fallait surtout éviter la prise de pouvoir par Sully et donc par le clan des protestants.
Des protestants. Oui.
Et on sait que le couronnement de la reine avait été annoncé pour le 1er mai, reporté au 6 mai, et puis du 6 mai reporté au 10 et ensuite au 13. Donc, on voit que on a pu annoncer la mort d'Henri IV parce qu'elle était liée aussi avec ce couronnement de la reine. C'est donc très singulier. Il y a même un certain baron de Frenz qui était gentilhomme de la chambre de l'archiduc Albert qui dit nous réglerons son fait à propos d'Henri IV.
Vous parlez des dépenses, c'est très utile ça aux historiens parce que c'est souvent la trace, la seule trace qui reste d'un certain nombre de missions qui ont été confiées. Or là, dans les dépenses de la cour de Bruxelles, vous avez fait là encore des découvertes.
Oui,
hein.
Alors, c'est cela, c'est que dans les comptes de la recette générale de Lille, nous voyons pour l'année 1610 une somme de 15 000 livres dépensées pour les dépenses secrètes dont on ne peut faire plus ample déclaration. Voilà exactement ce qui est indiqué. Bon. Or, on sait que dans les années précédentes et dans les années suivantes, les dépenses d'espionnage, c'était quelques centaines de livres. Là, pourquoi 15 000 livres dans l'année 1610. Alors, pour revenir à la lettre, de Jacob Enjolras, on donne des noms. Il y a un certain individu qui a promis
Jacob
à l'archiduc...
Jacob Enjolras est donc ambassadeur de Genève à Paris.
À Paris, voilà. Un ancien gentilhomme français était donc un homme très, très pondéré. On connaît sa correspondance.
Et une grosse semaine après la mort du roi, il écrit donc cette lettre. Hein.
Exactement, le 23 mai. Il dit un certain individu, d'après ce que les informations que j'ai pu recueillir, a promis à l'archiduc Albert qu'il ne manquerait pas le roi quand il l'attaquerait au Louvre. Le complot est dirigé par le comte de Salnov et son adjoint Lamotte, Lamotte qui est parti pour Paris. Alors, ce comte de Salnov est probablement Charles-Emmanuel de Marmier de Salnov, qui était un officier de franc-comtois, qui faisait partie de l'état-major de Bruxelles. Tout cela nous conduit évidemment à montrer qu'il y a eu un groupe qui est venu à Paris. On a retrouvé aussi après la mort d'Henri IV la trace d'un certain maçon, un ouvrier, qui avait sur lui des lettres de la cour de Bruxelles, de l'argent, 2000 livres. Pierre de l'Étoile, qui est donc le chroniqueur, grand chroniqueur de l'époque, dit « c'était un agent de l'archiduc ». Et on le met aussi à la conciergerie. Il y a un autre aussi, un soldat nommé Saint-Martin, qui raconte à une veuve d'un officier, juste quelques jours avant l'assassinat d'Henri IV, il lui dit « fuyez Paris, il va y avoir des événements extrêmement graves qui vont se dérouler ». Et puis, tous les deux s'en vont vers le temple de Charenton, et là on voit quelques loqueteux autour à l'entrée du temple, et on voit un individu habillé de vert, et Saint-Martin lui désigne en disant voilà un des individus très dangereux.
Bon. Or on sait que Ravaillac était toujours habillé de vert.
À la flamande, toujours habillé de vert à la flamande. Alors, ça ne veut pas dire pour autant, et bien entendu que tout le monde soit d'accord, enfin qu'on soit bien d'accord là-dessus, c'est que c'est l'acte isolé d'un demi-fou.
Alors voilà, ça il faut peut-être bien préciser.
C'est très clair.
C'est-à-dire que c'est très subtil ces histoires et ça ne peut que faire écho évidemment à ce qui s'est passé à Dallas en 1963 avec le président Kennedy. On est dans des rapports un peu du même genre. C'est-à-dire que il n'est pas question de mettre en cause la participation évidemment de Ravaillac, ni même son indépendance d'une certaine manière.
À 17 reprises, il a dit qu'il n'avait pas de complice.
Voilà, donc lui...
Et on peut le croire, lui, dans sa propre psychologie.
C'est-à-dire que lui, il a le sentiment d'agir seul. Sauf qu'il y a peut-être de bonnes fées sur son chemin, en fait. C'est ça, ou de mauvaises fées, en l'occurrence.
Voilà, donc il a probablement été manipulé. S'il y a un groupe qui est arrivé quelques jours après la venue de Ravaillac, ce groupe, voyant cet individu se répandre dans les auberges, puisqu'il a passé son temps dans les auberges, on a très bien pu le pousser en avant. On sait que quand il est descendu à l'auberge des Cinq Croissants dans le quartier Saint-Jacques, eh bien, il y avait des soldats qui étaient là, soldats des gardes françaises, qui nous dit qu'il n'y a pas des agents de l'archiduc dans cette...
On sait qu'il a rencontré des confesseurs aussi qui, loin de le calmer, ont plutôt eu tendance à...
Exactement. Alors, tout ça...
Agiter cet esprit saint.
On a poussé, c'est un esprit... Alors, on a parlé d'un fou de Dieu. Est-ce qu'il n'est pas plutôt un demi-fou? Il a eu des hallucinations, il voyait des hosties qui montaient, des flambeaux. Il a voulu entrer dans les ordres chez les feuillants. Et les feuillants l'ont gardé 5 semaines et puis l'ont éjecté parce que ce personnage est extrêmement dangereux, incontrôlable. Donc ce personnage est isolé, est fou et il a été probablement guidé. Non pas par une grande conspiration derrière lui, avec la marquise de Verneuil, avec le duc d'Epernon, avec le roi d'Espagne non plus, qui est tombé des nues quand il a appris la mort du roi, mais plutôt quelque chose qui s'est passé à Bruxelles parce que là, il y avait une menace
direct, bien sûr.
On allait envahir les Pays-Bas.
Et on allait sans doute saccager le pays, bien sûr.
C'était aussi un catholicisme très fort de combat, marqué par la Ligue. L'archiduc Albert admettait tous les opposants à Henri IV, y compris ceux qui prônaient le régicide. Donc tout cela permet d'éclairer cette affaire.
Et alors ces hommes qui sont rue de la Ferronnerie au moment même de l'attentat et qui disent tue, il faut qu'il meure. Qui sont-ils? Avouez que ce sont un peu les fantômes de cette histoire.
Oui, très curieux. Huit personnes à pied, donc armées. Deux personnes à cheval et qui se précipitent sur l'assassin en disant il faut qu'il meure. Ils l'ont probablement suivi parce que Henri IV, on ne connaissait pas du tout l'itinéraire de la voiture. On sait qu'Henri IV voulait se rendre rue Saint-Denis pour voir les apprêts de la fête qui devait présider à l'entrée de Marie de Médicis laquelle venait d'être couronnée. Mm-hmm. Elle a été couronnée
le
13.
Encore fait sa joyeuse entrée,
La joyeuse entrée se faisait le 16. Bon, mais Henri IV a donné au cours de l'histoire l'itinéraire, a guidé le cavalier qui tenait les rênes. Donc, on ne savait pas exactement où il allait. Donc, pourquoi cette troupe-là se trouve là à ce moment-là? C'est probablement parce qu'elle a suivi cet assassin. Voilà ce qu'on peut dire. C'est sûrement.
Donc, on peut dire pour résumer cette affaire. Qu'il y a bien eu un grand nombre de complots contre Henri IV, que parmi ceux-ci, il y en a un qui était d'actualité, c'était ce qui se tramait à Bruxelles, étant donné la menace énorme que la guerre qu'Henri IV s'apprêtait à déclarer faisait peser sur les Flandres, et que l'on a sinon armé tout à fait la main de Ravaillac, on l'a en tout cas conduit, poussé, aidé, voilà. Soutenu.
Et une dernière phrase de Ravaillac, au moment où il allait être
exécuté,
pendant son exécution, il dira « Hélas, on m'a bien trompé quand on a voulu me persuader que le coup que je ferais serait bien reçu du peuple. »
Incroyable.
Qui ont ?
Et voilà.
Tout le mystère est là.
C'est-à-dire que certains lui ont quand même dit « Allez-y, mon petit, mon grand, le grand, parce qu'il était grand, vous allez rendre service et la foule est derrière vous. » Or, il a vu au moment de son supplice que non seulement la foule n'était pas derrière lui, mais que les Français pleuraient Henri et voulaient le mettre en charpie, en fait. Hein. Et donc, on m'a bien trompé, mais comme vous dites, qui est ce « on » Je pense que grâce à vous, nous avons quand même une idée plus précise de l'identité de ce « on ». Je renvoie bien entendu tous les auditeurs qui voudraient en savoir davantage, qui voudraient entrer dans tous les détails de cette affaire, à votre ouvrage, Jean-Christian Petit-Fils, qui vient d'être réédité dans la collection de poche des éditions Perrin, la collection Tempus, et qui s'appelle « L'assassinat d'Henri IV », tout simplement. Et puis, ce serait un beau cadeau de Noël, mais là, il est un peu tard maintenant. Donc, on va dire que ce serait tout simplement un beau cadeau de Nouvel An, de belles étrennes, votre célèbre biographie de Louis XVI chez Perrin, qui est réédité dans une édition qui matériellement est somptueuse, mais qui aussi intellectuellement a été révisée.
Oui, absolument.
Vous l'avez retravaillé, si je puis dire. Merci beaucoup. Jean-Christian Petit-Fils. Donc aujourd'hui, nous parlions d'Henri IV, et demain, vous verrez, nous restons dans les énigmes royales.
Un instant sur Europe 1, le retour aux origines avec un gros plan aujourd'hui sur les mots monsieur, madame et mademoiselle. C'est dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Aujourd'hui, pour vous, une question de Victoire, Franck, qu'elle a posée sur le site internet europe1.fr. Pourriez-vous nous expliquer depuis quand les appellations monsieur, madame et mademoiselle sont réellement en vigueur ?
Alors, c'est un petit peu compliqué. Monsieur, ça vient de mon sieur, autrement dit de monseigneur. Bien entendu, sieur étant l'abréviation progressive de seigneur. Donc, on s'adressait à des personnes de haut rang, hein, à des princes, à des personnages de haut statut. Et c'était une façon de marquer une forme de déférence. Le terme monsieur, au sens beaucoup plus classique, va se développer avec la correspondance commerciale au 19e. Je dis bien au 19e. 19e siècle seulement, et c'est seulement depuis la Seconde Guerre mondiale qu'il a perdu toute forme de connotation supérieure. En quelque sorte, aujourd'hui, on dit monsieur à tout le monde, y compris à des gens extrêmement modestes. Bon, ça fait partie, voilà. Autrefois, il y avait cette dimension. Même chose chez dame. Dame, ça vient de domina en latin, damna en bas latin, c'est-à-dire c'est la maîtresse. Et donc, madame, eh bien, c'est ma maîtresse, et c'était, ça fait partie du langage courtois. Alors, on voit apparaître ce terme, pour répondre très précisément, au 12e siècle. Quant aux deux mots mademoiselle, eh bien, c'est le diminutif, hein, bien entendu. On appelait dans un premier temps demoiselles les femmes de bourgeois pour les distinguer des dames qui étaient les femmes de nobles. Et puis petit à petit, vous savez que ce sont les jeunes filles ou les personnes non mariées qui sont devenues mademoiselles. D'ailleurs, cette appellation officiellement en France n'existe plus. Théoriquement, depuis le 26 décembre 2012, puisque par décision du Conseil d'État, on a retiré le mademoiselle des formulaires administratifs.